Bonjour, aujourd'hui 1796, la vaccination.
J'ai su, par une longue et pénible industrie, des plus mortels venins prévenir la furie. Jean Racine, Mithridate.
D'histoire. Aussi loin que l'on remonte dans le temps, l'histoire a toujours été marquée par les ravages provoqués par des maladies plus meurtrières encore que les guerres et devant lesquelles l'homme est resté impuissant pendant des siècles. Aujourd'hui disparu ou en voie de disparition, la variole, la peste, la rage, la tuberculose, la poliomyélite, le choléra, la diphtérie ou le tétanos ont terrorisé des populations qui en sont aujourd'hui délivrées grâce aux vaccins. C'est dire ce que nous devons à ceux qui, dans le secret de leur laboratoire, ont découvert les moyens de lutter contre ces fléaux, mais aussi ce que nous attendons d'eux face à des maladies nouvelles comme le sida. Et pourtant, l'histoire de la vaccination est aussi peu connue que le nom de ceux qui l'ont faite et qui restent pour nous des anonymes, à une exception près.
Dans le hall de l'Institut Pasteur s'ouvre une voûte de mosaïque d'or fermée par une grille. Ici repose Pasteur. Deux dates, 1822-1895. Il y a 50 ans que mourait un des plus grands savants français. Mais rien n'est plus émouvant que de se trouver au seuil de cette crypte de marbre et d'apercevoir tout autour de nous, par les fenêtres qui donnent sur les cours, d'autres savants, d'autres élèves penchés sur leurs travaux dans leur laboratoire.
Anne-Marie Boulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du département Société et Santé à l'Institut de Recherche pour le Développement, et puis vous avez dirigé aussi un livre collectif qui a été publié il y a quelques temps chez Fayard, qui s'appelle « L'aventure de la vaccination ». Alors c'est vrai que c'est une aventure, cette histoire de la vaccination. Elle est pleine de rebondissements, elle est pleine de personnages extraordinaires, et quand on la lit, elle est pleine de surprises aussi, parce qu'on y découvre que bien avant Pasteur, il y a des gens qui, comme M. Jourdain, faisaient un peu de la vaccination sans le savoir, à commencer peut-être par ce roi d'Asie mineure, Mithridate, qui s'inoculait du poison pour s'en prémunir.
Ah oui, merveilleux Racine. On a oublié que se vacciner, c'est se mithridatiser.
Voilà.
Du nom d'un roi, le roi de Pont, la Turquie ancienne, qui, pour éviter d'être empoisonné par son entourage, absorbait tous les jours des petites quantités de poison.
Si bien qu'il n'a pas pu se tuer en se suicidant, il a demandé à ce qu'on le transperce à coups de poignard. Alors, il y a aussi la Chine également, qui est en avance sur beaucoup de choses, et la Chine qui, très longtemps, avant Pasteur, avant Jenner aussi, on en parlera dans quelques instants, voilà un nom totalement oublié, eh bien, en Chine, il y a des médecins qui inoculaient, effectivement, je crois, des pustules de variole pour prémunir les Chinois contre la variole, déjà.
Oui, on sait depuis très longtemps que on ne contracte qu'une seule fois la variole, cette maladie aujourd'hui disparue, avec d'horribles pustules qui défigurent la personne. Mais on sait moins qu'effectivement en Chine, mais vous savez bien que la Chine est la mère de tout, de toutes les sciences. En Chine, il y a eu depuis très longtemps une tradition pour protéger les enfants. Et je vous reprends, ce n'étaient pas les médecins, c'était peut-être les femmes qui ont pris l'habitude de percer les pustules avec des aiguilles pour hâter la guérison et qui, manipulant ainsi sans le savoir le pus des varioleux, ont transmis des varioles qui se sont révélées bénignes.
On dit que c'est aussi les femmes qui, en Turquie, en tout cas aux confins de la Turquie, dans le Caucase, avaient transmis à une certaine Lady Montagu, qui était l'ambassadrice, enfin la femme de l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople, une recette qu'elle va transporter en Angleterre. C'est peut-être comme ça que ce qu'on n'appelle pas encore le vaccin est arrivé, je crois, en Europe.
Madame Montagu n'aimait pas perdre son temps pendant que son mari échouait dans son ambassade. Elle a fréquenté les harems, quoi de plus naturel, comme en Chine, ce sont les femmes...
Elle a fréquenté les harems... De quelle manière?
Je ne veux rien sous-entendre, non. Elle était bien obligée de passer sa vie côté femme.
Ouais.
Elle n'avait pas pour autant atterri dans le harem d'un pacha.
Et c'est là qu'elle pratiquait la même méthode que celle qu'on
Et c'est là qu'elle a vu se pratiquer quelque chose qui... C'est toujours dans les harems qu'a lieu la protection des femmes et des enfants.
Mmh. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle c'est un Anglais qu'on doit vraiment ce qu'on appelle la vaccination.
C'est un Anglais, c'est peut-être un hasard, c'est aussi parce que depuis longtemps, dans les campagnes anglaises, se pratiquait à bas bruit avec des anonymes, des fermiers, une sorte de protection naturelle. Lorsque les vachères avaient l'habitude de traire des vaches atteintes d'une maladie, la vaccine, elles contractaient des petits boutons autour des doigts, et lorsqu'il y avait une épidémie de variole, eh bien on savait qu'en général, elles échappaient à l'épidémie.
C'était une maladie du pied de la vache, je crois, et d'où le nom de vaccin.
D'où le nom de vaccin, qui au début du siècle veut dire, au début du 19e siècle, ne veut dire qu'une chose, la protection contre une maladie, la variole.
La variole, il faut peut-être rappeler, puisqu'elle a disparu, que ça a été vraiment une tragédie. Hein. Je crois que c'était au 17e siècle, au 16e siècle, que 3,5 millions d'Indiens sont morts de la variole, qui a d'ailleurs été importée en Amérique d'Europe, qu'en Inde aussi, 3 millions, en 1770, je crois qu'elle a fait 3 millions de morts. Il faut rappeler que Louis XV est mort de la variole. C'était la maladie de l'époque. Hein.
C'est une maladie terriblement contagieuse. Les Indiens, cela s'explique bien sûr par le choc d'une maladie complètement nouvelle pour eux, mais aussi par le fait qu'elle est terriblement contagieuse à distance. Il suffit de quelques vêtements avec des squames de varioleux pour contaminer toute une tribu.
Alors qu'a fait Jenner, justement? En quoi peut-on dire qu'il est le père lointain de la vaccination?
Jenner est un savant, un observateur. Lui-même a inoculé la variole à la manière chinoise ou ottomane, comme on voudra. Et il s'intéresse, il observe, et finalement il se lance, il fait quelque chose qu'on dénoncerait aujourd'hui comme une expérimentation sauvage. Il inocule la vaccine, cette maladie de la vache, à un jeune berger. Et ensuite, pour bien vérifier que le procédé marche, il lui inocule la variole sans succès. C'est le début de ce qu'on peut appeler la généralisation.
Enfin, sans succès, vous voulez dire avec succès, c'est-à-dire qu'il inocule la variole et il prémunit ce jeune berger contre la variole.
Il inocule la variole et rien ne se passe.
C'est ça, donc il n'a pas... Cela dit, ça a entraîné quand même, ça avait des conséquences. Cette vaccination, cette toute première vaccination, a été quand même assez dangereuse, je pense, Anne-Marie Moulin.
Elle était d'autant plus dangereuse que la plupart du temps, on a continué à vacciner avec le produit de la vache dans des endroits où il y avait des varioleux, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos virologues s'arrachent les cheveux parce qu'ils sont incapables de savoir exactement, ils aimeraient bien, quelle était la nature de la souche qu'a utilisée Jenner. Depuis, elle a été hybridée, elle a été associée étroitement au virus de la variole, ce qui fait que maintenant, nous ne connaissons plus que des souches composites.
Mais est-ce qu'elle a eu du succès, cette méthode, en Angleterre, une fois que Jenner, effectivement, a pour la première fois vacciné un berger?
Il y a eu un engouement. Vous savez, en médecine, c'est affaire de science, mais aussi de mode. Il y a eu un engouement extraordinaire pour la vaccine à la Jenner. Les chefs d'État s'y sont intéressés. Il a correspondu avec tous les présidents et les rois de son époque. Et d'emblée, les souverains se sont intéressés à un procédé qui leur permettrait de conserver leur population en bonne santé.
Alors Jenner, donc le Edward Jenner, qui a inventé le vaccin, a eu un certain succès. Cela dit, il y a, à cause des risques que comporte cette inoculation du mal aux malades, ou pour les en prémunir, il y a eu évidemment des résistances. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Alors donc en 1717, vous le disiez, Lady Montagu, voilà, l'épouse de l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Turquie, écrit à une amie anglaise son enthousiasme pour la découverte qu'elle vient de faire. La variole, dit-elle, si mortelle et si répandue en Angleterre, est ici rendue inoffensive par l'invention de l'inoculation. Chaque année, des milliers de gens subissent cette opération. J'ai bien l'intention de tenter l'expérience sur mon cher petit enfant. Et je suis assez patriote pour essayer de mettre à la mode en Angleterre cette utile découverte. Mais Lady Montagu ne se fait guère d'illusions sur le corps médical anglais, sans doute à tort, enfin je ne sais pas, qui, dit-elle, tire une partie considérable de son revenu de cette maladie lucrative, la variole. Alors, comme vous le disiez, 80 ans plus tard, Edward Jenner pratique sa première vaccination. Et en 1803, en France, le ministre de l'Intérieur, Chaptal, qui est lui-même de formation de médecin, s'adresse au préfet. De toutes les maladies qui affligent l'espèce humaine, dit-il, il n'en est peut-être point de plus meurtrière que la petite vérole. Elle enlève le sixième ou le septième des sujets qui en sont attaqués. Depuis 3 ans, la pratique de l'inoculation de la vaccine a constamment offert des résultats satisfaisants. Préfet, vous introduirez donc cette pratique d'abord dans les hospices d'enfants. Vous ferez ensuite disposer dans chaque chef-lieu de sous-préfecture une salle où les familles pauvres pourront faire vacciner gratuitement leurs enfants. Mais tout le long du 19e siècle, les résistances sont coriaces. Par exemple, en 1854, dans les Basses-Alpes, un médecin de campagne se désespère. La Providence nous a donné par les mains de Jenner un moyen de prévenir la variole. Et malgré tout le zèle que j'ai mis dans cette partie du service, tous les enfants n'ont pas été vaccinés. À cause de préjugés ridicules, dit-il. Les uns disent que le virus vaccin est un poison, que son inoculation est presque toujours la cause des maladies qui affligent l'espèce humaine. Et d'autres vous objectent que l'enfant de tel ou tel est mort pour avoir été vacciné. Alors, un médecin avignonnais, en 1867, constate que seules les classes aisées font vacciner leurs enfants. Qu'en résulte-t-il ? La mortalité pèse presque tout entière sur la classe des manouvriers, dit-il, sur les travailleurs les plus pauvres. Alors, la résistance à la vaccination est d'autant plus forte qu'elle vient aussi de certains médecins, il faut le dire. En Belgique, le docteur Boons, qui préside la très sérieuse Ligue internationale des anti-vaccinateurs, affirme en 1882 que le vaccin prédispose à toutes les maladies contagieuses, qu'il est lui-même syphilitique. Vacciner et revacciner, dit-il, c'est inoculer la syphilis. Et qu'il faut considérer le vaccin comme une peste, entretenue à l'état permanent dans la société. En même moment, l'anglais Dudgeon affirme que le vaccin est un remède mystique qui replonge notre civilisation dans les ténèbres du Moyen-Âge. Mais pendant que ces langues de vipères s'agitent à la fin du 19e siècle, Louis Pasteur et son équipe, eux, travaillent.
Anne-Marie Moulin, donc même avant Pasteur, mais même depuis Pasteur, la vaccination qui a pourtant sauvé tant de vies humaines a toujours été critiquée.
Elle a toujours été critiquée, mais pour des bonnes et des mauvaises raisons. Des bonnes d'abord. Ce qui a été évoqué tout à l'heure est parfaitement vrai. La vaccine est d'abord transmise de bras à bras, d'homme à homme. Et par conséquent, elle transmet en même temps, dans un certain nombre de cas, des maladies redoutables, comme la syphilis. On cite volontiers l'exemple d'un couvent qui, de façon disciplinée, s'est rendu à la vaccine et a contracté la syphilis.
Ça a dû faire jaser, hein.
Oh, ça fait sourire certains anticléricaux. Mais, de toute façon, c'est pour cela qu'à partir des années 70, la vache, un animal paisible et aux mœurs garanties, va fonctionner comme source de vaccin.
Alors en tout cas, c'est peut-être qu'à cause de ces oppositions et ces risques que la vaccination a pris du retard. Et ce n'est qu'un siècle après Jenner, donc, que Pasteur découvre un deuxième vaccin, le vaccin contre la rage, sur lequel il travaillait depuis 1879, je crois, Anne-Marie Moulin.
Oui, mais avant même de disposer de ce fameux vaccin contre la rage, qui je pense a marqué en particulier les Français, il a un coup de génie qui est fondamental dans l'histoire de la vaccine et de la vaccination, c'est d'inventer le mot. La plupart des gens vous diront, surtout en France, que la vaccination c'est Pasteur. Pourquoi ? Parce que le mot c'est lui. Et il invente ce mot avant même de disposer du vaccin humain qui est le plus connu, le vaccin contre la rage. Il a déjà expérimenté sur un vaccin vétérinaire, deux vaccins vétérinaires, mais il lance le mot en donnant à ce terme toute son acception générale. Le vaccin, c'est une méthode générale, universelle, d'atténuation des virus qui permettra de faire disparaître quasiment toutes les maladies.
Et puis en 1885, donc, arrive un jeune patient qui a été mordu, il est en Alsace, qui a été mordu par un chien, et c'est là que se produit donc la toute première vaccination de Pasteur.
Et c'est là que Pasteur hésite, son vaccin sur lequel il travaillait.
Écoutez, je vais peut-être vous interrompre, ne m'en veuillez pas, Anne-Marie Moulin, vous ne m'en voudrez sûrement pas, parce que la suite de cette histoire, on va faire appel pour la suite de cette histoire à un témoin direct et pour cause, puisqu'il s'agit justement de ce jeune garçon, Joseph Meister lui-même, dont la voix a été retrouvé à l'INA par notre réalisatrice Anne Kobilac et par Christelle Rousseau. Joseph Meister, donc le premier homme vacciné par Pasteur, parlant à la radio en 1938.
Monsieur Meister, vous aviez, si je ne me trompe, 9 ans, lorsque, dans le petit village alsacien où vous habitiez, vous avez été mordu par un chien enragé. Ayant entendu dire qu'à Paris, un certain chimiste du nom de Pasteur faisait des expériences sur la rage, vos parents décidèrent de vous conduire immédiatement à Paris, où ils eurent d'ailleurs beaucoup de peine à trouver Pasteur, n'est-ce pas ?
En effet, c'était en 1885. À cette époque, M. Pasteur avait beaucoup d'ennemis, surtout dans le monde médical. Dans les hôpitaux, on refusait de me donner son adresse et l'on voulait me garder pour me soigner. Mais ma mère insista tellement qu'on finit par nous envoyer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm où travaillait M. Pasteur.
Comment le grand savant vous accueilla-t-il ?
M. Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait.
Vous avez donc en quelque sorte servi de Kobe, le premier Kobe humain, à Pasteur. Et à vous voir aujourd'hui encore si vigoureux, je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi.
Il a en effet parfaitement réussi, et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage.
C'est donc Joseph Meister, interviewé en 1938, le premier Kobe, comme on vient de l'entendre, le premier cobaye donc de Pasteur. Je vous ai vu tout à fait surpris, Anne-Marie Moulin.
Oh, quelle émotion! Vous savez qu'il s'est suicidé en 1939.
Non, je ne savais pas. Je ne savais pas, mais c'est étonnant, cette voix de Meister, le premier, donc, effectivement, avoir été vacciné, et puis grâce auquel, même s'il s'est suicidé, grâce à Pasteur, qui a gagné ainsi 60 ans de sa vie, puisqu'il avait plus de 60 ans déjà quand il était interviewé, c'est extraordinaire, donc, d'entendre cette voix. Qu'est-ce qu'il a apporté, en fait, Pasteur? Il a apporté quand même plus qu'un nouveau vaccin, je suppose.
Il a apporté, effectivement, avec le nom, le principe d'une méthode systématique d'atténuation des virus. Il faut prendre le virus au sens le plus général du terme. Bactéries, virus, parasites, comme on dirait aujourd'hui. Tout ce qui bouge et tout ce qui est responsable, on pensait à l'époque, de la plupart des grandes maladies.
Mmh. Il a apporté aussi l'Institut Pasteur, qui a été créé de son vivant en 1888.
Et qui continue, suivant une chaîne ininterrompue, de travailler sur les virus, les bactéries et les parasites, et de chercher des vaccins, car il faut encore rechercher.
Et d'employer aussi Joseph Meister, on va le réécouter, puisque ça vous a ému, cette voix, on va réécouter Joseph Meister, la suite de cette interview de 1938.
Vous avez sans doute conservé les meilleures relations avec Pasteur. Parfaitement. Il s'est toujours inquiété de moi, et c'est grâce à lui que je suis revenu à Paris. J'ai même travaillé un certain temps avec M. Pasteur lui-même dans son institut, fondé en 1888.
Vous avez donc, M. Meister, joué un grand rôle dans l'histoire de l'immortelle découverte de Pasteur. Il était juste qu'on le reconnaisse et qu'on vous charge des fonctions de concierge de l'Institut Pasteur. Depuis quand remplissez-vous ces fonctions?
Depuis 1913, depuis 25 ans.
Eh bien, je vous souhaite, et tous nos auditeurs aussi, de le demeurer longtemps encore et toujours en bonne santé.
Donc, concierge, effectivement, de l'Institut Pasteur, cet institut qui a quand même tant fait, lui aussi, pour exporter la vaccination dans le reste du monde, par le biais aussi de l'Empire colonial français, il faut le dire, à l'époque.
Et qui a envoyé un peu partout, effectivement, dans ces instituts outre-mer, des gens qui sont venus chercher au plus près des maladies locales, comme par exemple la fièvre jaune.
Alors donc, il y a ceux qui travaillent contre la maladie, il y a ceux, on l'a entendu, qui les en empêchent, et puis il y a également ceux qui en sourient.
Des gens qui ont la migraine, des coliques bien mal aux dents. Voulez-vous dans la vie humaine, chacun a ses petits accidents. Ainsi tenez-moi, c'est bizarre, j'ai quelque chose à bracadabrant. Ça me prend ça qui sent très égard, et pour un rien blague ça me reprend. Je n'ai pas la grippe ni l'anémie, la méningite, la pneumonie. Je n'ai pas le typhus ni le choléra, ni des petits trucs dans l'estomac. Je suis atteint d'une bonne maladie, moi. J'ai la rigolomanie.
France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
C'était donc la rigolomanie d'un certain Constantin Le Rieur, enregistré à l'Alhambra en 1913. À cette époque, les progrès de la vaccination se poursuivaient. On a découvert en 1888 le vaccin contre la typhoïde et en 1921, le vaccin peut-être le plus célèbre que tous les enfants de France connaissent. Écoutez ce reportage enregistré dans une école en 1949.
En tant que directeur d'école, je suis heureux de voir s'établir la vaccination par le BCG. Nos élèves, ainsi tuberculisés préventivement, éviteront ces redoutables primo-infections graves qui les éloignaient de l'école pour des mois. Grâce à la vaccination par le BCG, la fréquentation scolaire sera améliorée et de nombreuses journées de classe seront récupérées pour le plus grand bien de nos enfants.
Ils sont horriblement attivisés, ces enfants-là. Ah, et toi, dis donc, toi, alors, qu'est-ce qu'on t'a fait, là?
Oui.
Bah, la cuisse, là.
Oui,
de quoi?
BCG.
Ah, BCG, tu parles anglais ou quoi? Quel âge as-tu?
6 ans.
6 ans? Et comment t'appelles-tu?
Robert Agon.
Ah, Robert Agon, alors t'es le BCG, maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit tube que tu tiens à la main? On va demander à la jeune femme. C'est du quoi?
C'est du lait.
C'est du lait.
Alors c'est donc le BCG. Je disais tout à l'heure que tout le monde connaît ce vaccin, mais en revanche, très peu de gens savent à quoi correspondent ces initiales, Anne-Marie Moulin.
C'est le bacille de Calmette et Guérin.
Voilà, les inventeurs du vaccin contre la tuberculose, qui était une maladie terrible. Pour rappeler peut-être que dans les années 50, alors, l'archive qu'on vient d'entendre était de 49. À cette époque, ce n'était pas encore obligatoire. Il a été rendu obligatoire en 55, je crois. Mais dans les années 50, elle a été la plus importante de toutes les maladies infectieuses en Europe et aux États-Unis.
Oui, et pourtant, vous savez bien que le BCG n'a pas été universellement répandu. Il y avait eu un accident de parcours qui a laissé une trace, c'est Lübeck. En 1929, des enfants reçoivent le BCG et il y a plus d'une centaine de morts. Il est probable qu'il s'agissait d'une contamination de laboratoire par un bacille de tuberculose virulent. Mais tout incident est catastrophique en matière de vaccination.
Dans votre livre, parce que bon, il y a eu d'autres vaccins, d'autres maladies qui ont été vaincues, qui ont disparu. La polio a disparu depuis 90 en France, alors qu'il y avait encore 4000 cas en 57. Le tétanos aussi a disparu en 90 en France, mais il est encore très présent dans le tiers-monde. Et dans votre livre, vous parlez d'une crise de la vaccination, due notamment au fait qu'elle n'est pas encore répandue dans le monde entier.
Une crise, oui, mais elle n'est pas encore répandue et elle est contestée à l'intérieur même du pays qui a donné naissance à Pasteur. À la fois, il existe d'abord de nombreuses maladies pour lesquelles nous n'avons pas de vaccin.
Oui, ça c'est étonnant. Ça, je ne savais pas, par exemple, que la lèpre, parce qu'évidemment, il y a le sida, mais ça c'est une maladie nouvelle, mais la lèpre, la syphilis, l'hépatite C n'ont toujours pas de vaccin.
En fait, on découvre de plus en plus qu'avec la variole, on avait eu une chance extraordinaire. Toutes les maladies sont beaucoup plus compliquées.
Mais comment se fait-il qu'il y ait un tel retard pour certaines maladies comme celle-là? Sans parler du sida.
C'est précisément parce que le modèle variole qui nous obsède, la réussite de la variole, qu'on aimerait tant reproduire à plusieurs reprises, c'est une maladie qui laisse une immunité très solide, d'un seul coup. Ça passe ou ça casse. Tandis que pour la plupart des maladies, c'est plus compliqué. Certaines continuent à bas bruit, d'autres connaissent des souches très différentes, entre lesquelles il n'y a pas forcément de protection croisée. Bref. C'est toute une aventure.
Et le sida, justement, comment se fait-il qu'on mette tant de temps? Remarquez, non, parce que quand on vient de citer les cas qu'on vient de citer, on peut prévoir peut-être pour le sida de très longs délais avant qu'il y ait un vaccin.
On a prévu de très longs délais précisément en raison du fait que le virus sida, comme vous le savez, mute très rapidement. C'est-à-dire qu'il offre constamment un visage changeant à celui qui veut le saisir pour le capturer.
Et puis il attaque lui-même le système immunitaire, donc immuniser contre une maladie comme celle-là, c'est pas tellement évident. On parle aussi beaucoup d'un vaccin universel dans un avenir lointain, c'est-à-dire qu'avec un seul vaccin, on est prémuni contre toutes les maladies.
Je crois que tout le monde rêve du vaccin universel. D'abord, on gagnerait du temps. Et comme ce colonel de l'armée anglaise partant en Inde qui demanda d'avoir tous les vaccins en une seule injection et qui dit tant en bas mort, ça c'est la légende. Mais ce qui est vrai, c'est que pour le moment, on essaye de se rapprocher d'un vaccin universel en combinant plusieurs vaccins dans la même seringue.
Et est-ce qu'on peut imaginer, si je puis dire presque, la disparition du vaccin, c'est-à-dire autre chose que le vaccin? Après tout, le vaccin reconnaît la maladie, lutte contre elle avec ses propres armes. Mais est-ce qu'il y a d'autres formules que la vaccination pour lutter contre les grandes maladies?
On peut penser qu'il y a une formule plus simple, qui n'est pas forcément la plus commode à appliquer, c'est de faire soi-même spontanément, de constituer une bonne immunité en rencontrant un virus qui, par chance, est particulièrement gentil.
Oui, ça suppose beaucoup de travail. C'est peut-être ça qui fait aussi de la vaccination un procédé assez cher, qui explique aussi qu'il n'est pas répandu dans le tiers-monde.
C'est un procédé assez cher en raison des recherches de plus en plus longues et compliquées qu'il faut quelque part mettre à profit, et beaucoup de firmes pharmaceutiques hésitent avant de se lancer dans un vaccin qui risque de leur prendre beaucoup de temps et de ne pas leur rapporter beaucoup dans le tiers-monde.
Ouais. Mais quelles sont les grandes maladies aujourd'hui qui affectent justement le tiers-monde et contre lesquelles on reste impuissant?
Le paludisme. Et le jour où la quinine nous fera défaut, c'est-à-dire où on commencera à avoir des résistances à la quinine, qui est notre dernier bastion, eh bien à ce moment-là, je pense qu'on se préoccupera aussi en métropole du vaccin contre le paludisme.
En tout cas, merci Anne-Marie Moulin de nous avoir raconté cette aventure très longue et en si peu de temps, de manière aussi concise. Vous le faites d'une manière moins concise mais passionnante, dans un livre que vous avez dirigé, un livre collectif qui s'appelle « L'aventure de la vaccination », édité chez Fayard dans la collection « Penser la médecine ». À lire également sur le même sujet « La vaccination » de Claude Hanoun dans la collection « Que sais-je » au PUF, « Une brève histoire des sciences » sous la direction de John Grebin chez Larousse, et puis la biographie de Pasteur de Pierre Darmon chez Fayard. Et puis à écouter également un CD, Pasteur, l'homme, le savant, la mémoire, une série d'émissions de Michel Chouchan, édité en disque compact par Radio France et la SCAM. Vous pouvez retrouver la bibliographie de cette émission en contactant le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33, 2 francs 23 à la minute. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Patrick Antena et Patrice Lecomte, Archivina, Christelle Rousseau, documentation Rebecca de Nantes et Christina Villarcane, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'homme qui a fait basculer la Turquie dans le monde moderne, c'était au début du siècle, et c'était Mustafa Kemal, dit Atatürk, le père des Turcs. Mais tout de suite,